franceinter.fr.
Quand la prestigieuse revue médicale anglaise The Lancet consacre un numéro spécial à la France et à son système de santé, eh bien on en parle à la une de la science, surtout lorsque certains des articles concernent directement des réformes en cours de négociation entre la Sécu et les syndicats de médecins. Dominique Dupagne est avec nous pour commenter cette publication. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Je rappelle que vous êtes médecin généraliste. Quelle est d'abord l'idée de cette publication à l'initiative du Lancet qui fait l'objet donc d'un, on va dire, un hors-série, c'est ça ?
Un numéro spécial.
Ouais.
Un numéro spécial dans lequel on a des signataires ministres. C'est un peu surprenant. Non, mais
Notre ministre de la Santé, par
oui,
exemple.
Oui, absolument. Mais avec des numéros spéciaux, on fait un peu ce qu'on veut dans les revues scientifiques.
Hein. D'accord. Même si on n'est pas scientifique, forcément.
Je ne me permettrai pas de dire que Mme Touraine n'est pas scientifique.
Non, mais enfin, bon, les ministres avant tout, là, pour le moment, en tout cas.
Oui,
bon.
Les ministres.
Donc, elle signe un édito.
Son nom et une lettre à l'éditeur et M. Hollande cite un éditorial.
Très bien. Et à l'intérieur, il y a quoi d'autre ?
Des articles de sociologues et de politologues de la santé qui décrivent aux Anglais le système de santé français, ce qui n'est pas inintéressant d'ailleurs.
Mmh. Et alors, selon les Anglais, comment se porte notre système de santé ?
Ah, pas sont des Anglais, parce que c'est des Français qui signent les articles, quand même. Donc, les Anglais ont une problématique. Ils ont fait un choix d'un système de santé d'État, fonctionnalisé, qui est un des moins chers des pays de l'OCDE en termes de rapport au produit intérieur brut, c'est-à-dire avec une base de comparaison correcte. Mais le problème, c'est qu'il y a une espèce d'insatisfaction des patients qui ont des délais très importants et qui sont pas toujours très bien reçus. Les cabinets sont fermés à 17 heures. Enfin, le système français, pour faire un peu rêver, parce qu'il coûte pas si cher que ça, et en fait, il est très égalitaire.
François Hollande s'est exprimé hier aussi sur le prix des médicaments innovants. Est-ce que vous cautionnez ce qu'il a dit ?
Alors là, c'est un article très intéressant. On a un énorme problème qui a été mis en valeur avec le médicament contre l'hépatite C qui s'appelle le Sofosbuvir. On en a parlé ici. C'est un médicament qui coûte 1 euro le comprimé à fabriquer et qui est vendu 500 euros. Et le laboratoire dit, je vous le vends 500 euros parce que je pense que c'est le prix maximum que vous pouvez payer. Donc sans un accroc dans
déjà,
la voie.
Déjà, c'est pas cher. Oui.
Voilà.
Ça, on vous fait un prix d'amis.
Et de toute façon, j'ai acheté le produit 12 milliards de dollars. Donc maintenant, je dois le vendre. Donc il y a un petit malaise quand même là-dessus. Mm-hmm. Et donc les pays occidentaux, les pays riches, ont envie de se coordonner pour pas subir le diktat de l'industrie pharmaceutique.
Le prix prohibitif des médicaments, c'est un vrai problème
aujourd'hui
dans le système de santé, Dominique.
C'est effrayant, vous avez des produits à 5000 euros par semaine. Enfin, on arrive à des sommes qui donnent le vertige. Et là, on en avait parlé, guérir une hépatite C pour 60 000 euros, c'est quand même une somme. Mais surtout quand on sait que le produit coûte 80 euros à fabriquer. Quoi. C'est ça qui est embêtant.
Il y a un article dans cette publication qui vous intéresse particulièrement, Dominique. C'est celui d'Olivier Ney qui propose un renforcement du rôle régulateur de l'État dans les dépenses de santé. Est-ce que vous l'avez lu ?
Je l'ai lu, en effet. Je l'ai pas détaillé parce que je l'ai vu ce matin, mais j'ai quand même eu le temps de le parcourir. Donc, il fait une revue très intéressante de notre système de santé, de son avantage majeur qui est que n'importe qui, quels que soient ses revenus, peut avoir accès à des soins de haute qualité, ce qui est pas du tout le cas dans d'autres pays. Hein. Dans des films américains, on voit parfois la femme de ménage qui économise dans une boîte à chaussures de l'argent pour l'opération de son fils. On comprend pas ce que ça veut dire parce qu'en France, même quelqu'un qui n'a pas un sou peut être soigné dans les meilleurs services. Et ça fait rêver beaucoup de pays parce que c'est pas le cas partout. Mais donc, il y a un problème de régulation. Il y a des coûts, même si le système de santé français n'est pas du tout le plus cher des pays de l'OCDE, il y a quand même des coûts engagés, c'est 190 milliards d'euros par an, hein, la santé en France en dépenses de santé, et donc gagner 1%, 2%, 3%, ça vaut le coup.
C'est ça, renforcer la régulation ?
C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, il faut gérer cette somme. Soit on dit, on fait confiance aux professionnels de santé parce qu'ils sont consciencieux, ce qui était le cas jusqu'ici pendant des années, ce qui marchait pas si mal d'ailleurs. Mais enfin, bon, pour un gestionnaire, c'est quand même un peu limité comme mode de gestion. Soit on se dit, on va essayer de faire mieux. Et pour essayer de faire mieux, il faut réguler, un peu comme si le système de santé était une gigantesque entreprise dont le président serait à la fois la ministre de la Santé et le directeur de l'assurance maladie. Et le problème, c'est comment arriver à faire en sorte d'être sûr qu'on paye les meilleurs soins au meilleur coût. C'est ça le problème. Bon, alors il y a les médicaments, on vient d'en parler, mais il y a aussi les honoraires. Est-ce qu'il y a tout est utile ? Est-ce que tout est indispensable ? Et c'est à ce moment-là qu'on va chercher des modes de régulation qui sont présentés, notamment ce fameux mode dont on parle beaucoup en ce moment, qui est la rémunération sur objectif de santé publique, grosso modo une prime en fonction du fait qu'on a ou pas fait les choses qu'il fallait aux yeux en tout cas de l'assurance maladie. Ça, à un moment, ça s'est appelé paiement à la performance parce qu'on traduisait ça de l'anglais, mais performance est un mauvais mot traduit en français. En tout cas, le principe, c'était vous faites ce qu'on vous dit et vous allez toucher une prime de fin d'année qui actuellement se monte quand même en moyenne à 6 000 euros par généraliste et par an.
Mais alors, expliquez-moi comment on fait des économies en payant ces primes en plus.
Alors, c'est une très bonne question. Donc, le principe, c'est qu'on se dit que si on incite les médecins à faire de la bonne médecine pas chère en leur donnant une prime de 6 000 euros, ils vont faire économiser 20 000, 50 000, 100 000 euros euros à l'assurance maladie. En fait, ça marche pas du tout, mais comme disait l'autre, pour chaque problème, il y a une solution évidente, simple et fausse. Et donc, en fait, on se rue sur ce premier système qui est celui de la prime.
Sauf que pourquoi ça marche pas, Dominique Dupagne? Parce qu'a priori, il y a quand même des gens qui ont réfléchi à la question, donc pourquoi ils le proposent si ça marche pas?
Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on a une bibliographie assez solide sur le résultat du paiement incitatif et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, la nature humaine est ainsi faite que les gens se concentrent sur les objectifs qui sont primés et se détournent de ceux qui ne le sont pas. Et qu'au bout d'un moment, on ne travaille que pour la prime. On perd d'ailleurs de sa conscience professionnelle, ce qui est terrible, hein. C'est-à-dire qu'on a moins de conscience professionnelle. Et on travaille que pour la prime. En fait, je prends toujours la même comparaison. Imaginez que vous deviez juger des acquis des étudiants en fin d'année. Et que vous décidiez de faire un examen avec 10 questions connues à l'avance qui sont toujours les mêmes chaque année. Et vous vous imaginez.
Il y en a beaucoup qui aimeraient beaucoup.
Non, mais c'est ça, le système des indicateurs de médecins, c'est ça. On connaît les indicateurs, certains sont même déclaratifs, hein, c'est-à-dire qu'on demande aux médecins combien avez-vous eu de patients bien équilibrés pour leur tension. C'est un peu, vous savez, Pierre Dac, il peut le faire, oui, je peux le faire. Donc, c'est quand même incroyable qu'on en soit encore à ces systèmes-là, mais ça, c'est tentant pour un gestionnaire, si vous voulez. Le gestionnaire, il a soif de reporting, de chiffres, et donc il se dit si j'ai des indicateurs, je vais pouvoir pousser les médecins vers de meilleurs soins. Et d'ailleurs, ils sont tout contents de publier que ça améliore les indicateurs, ça c'est sûr. Mais ce qu'ils ne publient pas, c'est que ça dégrade le reste.
Et ça les biaise.
Alors, ça biaise globalement l'évaluation, puisqu'on évalue que ce qu'on a primé, c'est-à-dire les indicateurs qu'on a primés. On n'évalue pas, par exemple, la mortalité globale des diabétiques. Ou... Non, on se contente de dire, on a donné une prime au médecin pour qu'il prescrive une prise de sang 3 fois par an aux diabétiques, mais on se fiche de savoir si les diabétiques sont plus ou moins morts, ou sont en bonne ou mauvaise santé. Et comment on a payé les médecins pour prescrire cette fameuse analyse? Eh bien, ils l'ont fait. Et donc, on est tout fiers, on dit, ça a marché, regardez, j'améliore le système de santé.
Là, en ce moment, le débat sur ces indicateurs de bonne pratique, c'est le temps des arrêts maladie. Marisol Touraine propose d'encadrer.
En fait, c'était assez subtil. Dans le cadre, si je me mets dans la tête du directeur de l'assurance maladie, commencer par donner une prime aux médecins pour faire des choses relativement simples et consensuelles, ça l'habitue à cette prime. Et puis après, on peut durcir un petit peu les choses. Et là, la nouvelle mesure qui est proposée, c'est d'imposer des grilles de durée d'arrêt maladie en fonction des pathologies. Donc 3 jours pour l'angine, 5 jours pour la grippe, 3 semaines pour l'entorse. Mais le problème, c'est qu'on connaît cette vision statistique de la médecine par l'assurance maladie, et c'est compliqué parce que les hommes ne sont pas tous égaux. Tout le monde ne réagit pas de la même façon face à la maladie. On a des médecins actuellement qui sont poursuivis, en tout cas très embêtés par l'assurance maladie pour ce qu'on appelle le délit statistique. On leur dit, par rapport à votre classe de médecins, vous prescrivez trop de ceci, trop de médicaments, trop d'examens, trop d'arrêt maladie. Et le médecin dit, mais attendez, moi je ne m'occupe que de gens qui sont en souffrance au travail, c'est ma spécialité, donc bien sûr je fais 2 fois plus d'arrêts que les autres. Mais on ne veut rien savoir en face, si vous voulez. Donc ça, on le prend assez mal parce que nous, on connaît la complexité de la nature humaine et on veut surtout pas faire rentrer les gens dans des cases. Enfin, c'est pas des machines,
les
gens.
Mais alors, les faire sortir des cases, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on biaise l'épidémiologie aussi, alors du coup, non?
Pourquoi vous dites ça?
Dans le domaine de l'hypothèse, si on classe justement un nombre précis de jours pour une maladie, d'arrêt, si on a besoin justement de mettre plus de jours pour un malade, on va aller le chercher dans une autre maladie, non?
Alors, ça, d'abord, ça va biaiser la relation entre le médecin et son patient. Parce que quand moi je dis à un patient, je vous arrête 5 jours, il ne se demande pas, il me donne 5 jours parce qu'il a droit à 5 jours ou parce que j'ai besoin de 5 jours. Donc déjà, il y a quelque chose qui est faussé. Ensuite, statistiquement, on peut être soumis à des. Il y a des bassins de population, par exemple, où des gens travaillent très dur, ils ont le dos en compote, ils sont malades très jeunes, on fait des arrêts pour incapacité. De façon régulière. Quand vous êtes généraliste mondain dans le 16e, c'est pas exactement la même chose, si vous voulez. Et donc, on refuse d'être assimilé à un groupe homogène, parce qu'on sait que c'est pourtant la tendance en général, il n'y a pas que dans la santé, mais c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, parce qu'on ne peut pas réduire les gens à des statistiques.
Comment... Allez, dernière question.
Oui, comment réagissent vos confrères par rapport à ces propositions?
Mes confrères sont très irrités dans l'ensemble, une irritation palpable qu'on sent dans les manifestations, qu'on sent dans les revendications. Ils sont en train de négocier ce qu'on appelle la convention médicale, c'est-à-dire un contrat qui lie pour plusieurs années l'assurance maladie et les représentants des médecins sur le montant des honoraires, sur un certain nombre de choses. Donc on est actuellement, nous les médecins, en pleine négociation difficile et douloureuse avec l'assurance maladie parce que Marisol Touraine n'est pas la ministre de la Santé préférée des médecins.
Merci beaucoup Dominique Dupagne. C'était votre chute aujourd'hui. Et à demain Axel.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'amitié plus forte que la douleur. Eh bien, on connaissait déjà les bienfaits des amis sur le stress et l'anxiété, mais les avantages des liens sociaux iraient encore plus loin. Selon une étude de la revue Nature, l'amitié pourrait être un antidouleur plus puissant que la morphine. Après avoir subi certains tests liés à la douleur, les participants les plus entourés se sont révélés être ceux qui souffraient le moins. 3 exoplanètes potentiellement habitables orbitant autour d'une petite étoile ont été découvertes en dehors de notre système solaire. Selon les chercheurs, l'un des 3 astres découverts pourrait se situer dans la zone habitable et ainsi permettre le développement d'une forme de vie telle que nous la connaissons. Découverte à prendre avec des pincettes puisqu'il faudra attendre plus d'informations sur la masse et les caractéristiques atmosphériques de ces planètes avant d'être sûr qu'elles puissent potentiellement abriter la vie. Et puis le mystère des ravines observées à la surface de Mars pourrait être enfin résolu après l'eau liquide puis la glace carbonique. Finalement, c'est l'eau bouillante qui serait à l'origine de la formation du relief martien. Bien que la température ne dépasse jamais les 30 degrés sur la planète rouge, les conditions atmosphériques de cette dernière permettent à l'eau de bouillir dès 0 degrés. Des simulations en laboratoire dirigées par le CNRS de l'Université de Nantes qui semblent confirmer la théorie des chercheurs. Une vidéo montrant l'écoulement du sable produit par l'ébullition de l'eau dans des conditions martiennes est à retrouver sur la page Facebook de la Tête au Carré.